Voilà, bon, vous n'êtes pas encore très nombreux. Aujourd'hui, c'est particulier, c'est la dernière séance, si j'en crois mon agenda. Et l'examen la semaine prochaine, le 11 décembre après-midi. Donc ça vient vite. Du coup, cette dernière séance, on la consacre, comme promis, à des révisions. Donc, je vous avais dit, si vous avez le temps, regardez. Donc, ça, c'est la page du cours. Et donc, il y a un lien archive, là, qui vous donne accès à... Des sujets posés les années passées. Donc, je vous avais incité à aller y jeter un coup d'œil, à regarder les exercices pour faire une idée et voir du coup s'il y a des choses qui vous parlent ou pas, et les choses qui ne vous parlent pas, qu'on puisse en parler aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si. S'il y en a parmi vous qui ont fait cet effort-là d'aller voir, de commencer un petit peu leur révision, et bah, si oui, moi je suis à votre disposition, c'est-à-dire que si vous me dites une année, une question particulière, etc., bah, on fait ça ensemble. Est-ce qu'on devrait connaître les dates de la sortie de la souris? Non, je ne sais plus si on en a parlé. Le cours d'introduction, je ne me souviens plus bien. Je sais qu'on n'a pas tout fait dans le cours d'introduction. Donc, il y a des. Par contre, je me souviens de choses qu'on a faites. Donc, je peux vous poser, je me réserve le droit de vous poser des questions sur des choses qu'on a faites. La date. Je demandais la décennie hein, de l'invention de la souris. Mais je sais que cette année, je ne vous ai pas montré une vidéo qui est assez fameuse dans laquelle on a la démonstration d'un des tout premiers systèmes interactifs avant l'invention de l'écran bitmap. D'ailleurs, la souris, elle a été inventée avant. Donc, il y a une démo fameuse qui est faite par Douglas Engelbart qui présente sa vision de comment pourront être utilisés les ordinateurs. C'est une démonstration qui date des années fin des années 60, 67 ou 68, je ne sais plus. Je vous mets le lien pour les curieux. Donc, elle s'appelle la mère de toutes les démos. En fait, donc ça, c'est le lien Wikipédia là, qui explique un petit peu le. Donc, dans les années 60, Douglas Engelbart, il travaillait. En fait, il y a eu un gros financement pour un petit peu développer une vision de l'avenir qu'il avait de l'informatique. Et donc, on lui attribue l'invention de la souris, ce qui n'est pas tout à fait exact. Et sur la page Wikipédia, là, vous avez une. Est-ce que je peux vous montrer le lien que je viens d'envoyer. Vous avez une photo de la première souris. Et donc, c'est une boîte en bois, là, et avec deux roulettes, en fait. C'est pas encore une boule, avec des encodeurs dedans qui comptent les tours, et un bouton, et donc un port série, là, qui permet de communiquer avec l'ordinateur. Et donc, cette démo, alors, je suis en train de chercher, parce qu'il y a un lien où elle a été... Cette démo, elle a été... Donc la vidéo, elle se trouve en ligne. Ouais, c'est en flash. Elle a été découpée en morceaux avec toute la vidéo. Et en particulier, on voit le fonctionnement de la souris, quoi. Il montre la souris, il y a tout plein de choses dans cette démo-là. En particulier, il y a la visioconférence, alors sur un lien sur un lien analogique et non pas numérique. Et donc, ils parlent avec quelqu'un à distance et ils éditent un document partagé, comme maintenant on le ferait avec un Google Doc ou un truc comme ça. Sauf qu'on est en 67 et que les ordinateurs ont à peine des traitements de texte, quoi. Et donc, lui, il a déjà cette vision d'un ordinateur comme objet de collaboration. Voilà, pour la minute historique, je vous mets le lien pour ceux qui sont un peu intéressés. Là, c'est vraiment quelque chose de. C'est formidable. Alors, on revient à des trucs plus, peut-être plus terre à terre. Si vous avez des bouts de sujet que vous voulez qu'on traite, ou vous pouvez mettre dans le chat. Bon, en attendant que
Moi, je veux bien qu'on traite les premières questions de cours sur, je sais plus quel sujet c'était. C'était un sujet où il fallait présenter quatre fonctionnalités qui pourraient pas marcher sans notification,
Ok.
annulation.
Ouais, bon, c'est des questions un peu bateau qu'il doit y avoir un peu dans tous les sujets. J'ai une demande aussi pour le sujet 2015-2016. Bah, j'ouvre le sujet 2015-2016 et puis on regarde s'il y a cette question-là en particulier dedans. Non, il n'y a pas cette question-là en
Si, si,
suspens.
celle-là, c'est celle-là. La question 1, vous allez voir. Allez, dans la question 1, il y a selon
Ah oui, d'accord,
les
voilà.
fonctionnels, etc.
Donc, sujet 2015-2016. Allez, on est parti. Donc, je vous avais dit déjà, hein, alors durée, du coup, là, la durée, ça ne va pas être 2 h 30, ça va être, hop, 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 ça va être 2 h, il me semble. Oui, 2 h. Une feuille à 4, rectum, verso, manuscrit de votre main, barème indicatif. Mais le barème est indiqué, donc ça vaut le coup de regarder les équilibres entre les parties pour savoir à quoi consacrer son temps. Et je vous avais dit, alors maintenant j'ai changé, je dis plus l'orthographe, mais je dis comment je formule ça maintenant. Qualité de la présentation et de l'expression. Hein. C'est-à-dire que le plus c'est facile à corriger pour moi, je vous ai déjà expliqué, plus je vous récompense. Voilà, si le sujet présente des ambiguïtés, précisez vos choix. Donc je ne serai pas forcément là pour répondre à vos questions. J'essaie de faire les sujets où il y a le moins d'ambiguïté possible, mais ça arrive qu'il y en ait. Il y a des cas où il y a de l'ambiguïté par nature. Par exemple, la structure, hein, il y a des questions de cours, programmation par événement où je vous décris une technique d'interaction, typiquement. La description de la technique d'interaction, il y a forcément des petites zones qui peuvent être ambiguës, puisque le but de faire une machine à état, bah, c'est justement d'avoir quelque chose qui ne soit pas ambigu. Donc là, il s'agit de faire des choix et c'est votre responsabilité, quoi. Donc précisez vos choix, il sera tenu compte de vos hypothèses. Lorsqu'il est demandé de produire du code, ne vous focalisez pas sur la correction de la syntaxe. Hein, je vais pas taper votre code et essayer de le compiler avec Java. Je regarde juste que ça ressemble à du Java et que si vous étiez devant une machine avec la doc, la complétion, les erreurs de syntaxe qui vous sont signalées, évidemment, je ne prends pas ça en compte. Toujours structuré en 3 parties, l'examen, une partie un peu question de cours, que je vais sans doute réduire cette année. Je pense qu'il y aura quelques questions, mais c'est pas le ce sera. Ça fera moins d'un tiers du barème. Comment distinguer ce qui fait partie du noyau fonctionnel de ce qui fait partie de l'interface d'une application ici? Ah, attendez, pardon, oui, je vous ai dit. Donc 3 parties, une partie un peu question de cours, une partie programmation par événement, je vous décris une technique d'interaction, je vous demande de faire. Ma chaise grince. Je vous demande de faire la machine à état correspondante, et puis après, je vous demande de la coder en Java, typiquement. Voilà. Et puis une dernière partie qui est ce qu'on a fait récemment là, c'est-à-dire que je vous donne une interface utilisateur et puis je vous la donne en 2 tailles en général pour voir comment elle réagit au redimensionnement. Et à partir de ça, je vous demande de me construire, de me donner l'arbre des widgets, donc soit en utilisant la représentation d'arbre qu'on a vu en cours avec les gestionnaires de géométrie correspondants, le placement, donc les widgets et le placement, soit en m'écrivant du code, mais je préfère un arbre. Et en général, vous aussi. Et voilà. Et en annexe, je mets des choses qui peuvent être. Alors là, ça c'est quelque chose qu'on a. Je me souviens plus si on l'a vu, la théorie de l'action de Norman avec vous. Je crois qu'on est passé rapidement là-dessus. Je vous mets en annexe les trucs vraiment de cours où je vous demande pas d'apprendre par cœur. Je vous les mets en annexe. De la même manière dans la programmation par événement. Vous voyez que je vous décris pas la technique d'interaction, mais je vous dis. Les interfaces fournies par Java AWT Event permettent de recevoir des événements. Elles sont données ci-dessous. Elles disposent toutes d'un adaptateur associé, machin adapteur pour machin listener. Pour écouter la souris, on a un mouse listener avec mouse press, mouse release. On a un mouse motion listener avec mouse drag. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre le nom des méthodes. Vous n'avez pas besoin de... Les mouse events ont une méthode getPoint qui vous renvoie des points. Ils ont des getX, des getY. Donc, je vous donne les parties d'API dont vous avez besoin. Elles vous sont données. Okay. Ouais, j'ai bien noté là. Revoir rapidement MVC. Donc, on commence le sujet de 2015-2016. Peut-être qu'on fait la question de cours, la partie qu'on a vue. Et puis, programmation par événement ou MVC, je vois. Donc, question de cours. Comment distinguer ce qui fait partie du noyau fonctionnel de ce qui fait partie de l'interface d'une application? Bah, ça, c'est une question un petit peu de base. Vous devriez toutes et tous pouvoir y répondre. Donc, c'est au tout début, quand on parle d'architecture. Un critère qui permet de distinguer, c'est si jamais on change les périphériques d'interaction, bah, quelle partie du code faut changer. Voilà, donc Nina nous dit dans le chat là, le noyau fonctionnel, c'est tout ce qui est indépendant de la façon dont l'utilisateur se sert de l'application. Et donc, la partie interface utilisateur, c'est tout ce qui dépend de la manière dont on s'en sert. Donc, typiquement, le code qu'il faudrait écrire si jamais on change les périphériques d'interaction. Et donc, en cours, je disais, le noyau fonctionnel, c'est le quoi, à quoi sert l'application. Et l'interface, c'est comment on utilise l'application. Okay. Alors, il y a des petites variantes de ces questions-là dans les sujets... Typiquement, je peux vous donner du code et vous demander de... où c'est un petit peu tout mélangé. Je vous demande de démêler les morceaux. Donc, il faut avoir compris cette notion-là de base. Après, on vous demande, selon FECAT, le noyau fonctionnel doit fournir les trois services suivants, notification, prévention des erreurs et annulation. Donc ça, pareil, on a vu ça au début du cours architecture. Expliquer pourquoi en donnant un exemple d'interaction impossible ou difficile à réaliser pour chacun de ces services lorsqu'il est absent. Donc, il faut donner des exemples d'interactions qu'on ne peut pas coder facilement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les coder, hein, mais qui sont compliqués à coder si le noyau fonctionnel ne collabore pas. Alors, notification, des exemples, on en a donné en cours. C'est la partie la plus simple, hein. On en a dans la vie de tous les jours, et d'ailleurs ça porte ce nom-là en fait maintenant. Alors historiquement c'était des choses qui n'existaient pas, mais maintenant on a des. Quoi, si vous avez un Mac, vous avez un notification center par exemple, un centre de notification. Sur vos téléphones, vous avez l'habitude aussi des notifications, d'accord. Donc un exemple, c'est facile, vous piochez dans le. Typiquement, vous avez un mail qui arrive. Vous avez du coup l'icône mail qui. Vous avez un petit badge qui s'affiche dessus pour vous signaler que vous avez un mail qui arrive. C'est typiquement de la notification. Vous avez le noyau fonctionnel qui a reçu un nouveau mail et qui vous prévient en modifiant l'interface. Donc, voilà un exemple. Du coup, si on n'avait pas de notification, faudrait. Et d'ailleurs, pour le mail, c'est un faux exemple parce que. En pratique, ce n'est pas le noyau fonctionnel qui nous prévient. Ce n'est pas le serveur mail qui au travers d'Internet, vient afficher quelque chose sur notre écran. Hein. C'est le client mail qui tourne sur votre application, qui va en tâche de fond aller demander périodiquement au serveur mail de s'il y a des nouveaux mails. Et alors, il y a quand même une partie de notification parce que quand il y a des nouveaux mails, le noyau fonctionnel de votre client, cette fois-ci, il va quand même aller faire une modification sur l'interface. Et donc, c'est ça la notification. Hein. C'est le fait de, à l'initiative du noyau fonctionnel, d'aller montrer au travers de l'interface que l'état du noyau fonctionnel a été modifié. Okay, donc, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, des exemples de notification. Alors, un peu plus compliqué parce que c'est des choses. On va continuer dans les choses pas trop compliquées. C'est l'annulation. Un exemple de choses qu'on ne peut pas faire s'il n'y a pas le service annulation. Oui, alors dans la notification, exemple, une application qui nous dit qu'un téléchargement est terminé, tout à fait. Hein, tout ça, c'est des exemples de notification. L'annulation, des exemples pareils, vous devez en avoir. Des exemples classiques.
Moi, pour l'annulation, j'avais pensé à. Je ne sais pas si c'est bon, justement, c'est. Pas l'annulation, la prévention d'erreur, j'avais pensé à. Quand on tape un mail et par exemple, il n'y a pas d'arobase dedans, le noyau fonctionnel le détecte et du coup, l'affichage par exemple passe en rouge. Du coup, c'est le fait de détecter qu'il n'y a pas d'arobase. Ça, ce serait un bon exemple.
Ouais, alors OK, on parle prévention des erreurs, si vous voulez. Alors prévention des erreurs, effectivement, c'est celle qui est un peu plus compliquée. C'est le fait que de pouvoir on aimerait pouvoir demander au noyau fonctionnel, avant de faire quelque chose, de vérifier que qu'on peut le faire, en fait, hein, pour pas que ça crée d'erreur. Et donc un des exemples classiques que j'avais donné, c'est par exemple on ouvre un menu dans une application. Et il y a des trucs qui sont grisés parce qu'on peut pas les. C'est des actions qu'on ne peut pas effectuer.
D'accord, ouais.
Donc au moment où on ouvre le menu, on aimerait pouvoir demander au noyau fonctionnel et cette fonction-là, est-ce que je peux l'utiliser ? D'accord. Mais l'exemple que tu donnes est très bien aussi. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer le mail à une adresse qui syntaxiquement n'est pas correcte, donc on n'a pas de garantie, c'est pas parce qu'il y a un arrobase que ça va marcher. Mais par contre, s'il n'y a pas d'arrobase, on sait que ça ne va pas marcher. Donc on peut vérifier ça. Alors, en pratique, c'est pas dans un système de mail. Donc, c'est effectivement de la prévention des erreurs. Hein. Il y a la même chose, par exemple, quand vous remplissez un formulaire sur Internet. À une époque, pour créer un compte ou je sais pas quoi, vous remplissez le formulaire, vous faites OK, et puis ça vous renvoie un message d'erreur en vous disant « Ah, la date de naissance n'est pas remplie ». Et puis, ça vous remettait le formulaire tel quel. Donc, il fallait repartir de zéro. Après, il y a eu des évolutions où ça vous remettait le formulaire avec ce que vous aviez déjà rempli. Et maintenant, la norme, c'est que si au moment où vous remplissez, vous n'avez pas besoin de faire OK à la fin pour qu'on vous dise vos erreurs, au moment où vous remplissez, tout ce qui est syntaxique va être vérifié pendant que vous remplissez. C'est-à-dire, vous remplissez un champ, il va dire « Ah ben non, là, le champ n'est pas correct. » Okay. Donc, ça, c'est de la prévention des erreurs aussi, tout à fait.
Excusez-moi.
Maintenant, juste dans beaucoup de cas, cette prévention des erreurs, malheureusement, elle n'est pas faite avec la collaboration du noyau fonctionnel. C'est très souvent l'interface utilisateur qui va le faire. Alors, David, t'essayais de dire quelque chose ?
Ouais, mais du coup, non, c'est ce que vous venez de dire. J'allais dire justement, c'est pas. Vous avez dit que c'était l'interface qui faisait ça en règle générale et c'était pas le noyau fonctionnel.
Ouais, ouais. Mais ça veut pas dire que dans un monde idéal, ce serait le noyau fonctionnel. Vous voyez, prévention des erreurs, c'est identifié comme quelque chose où ce serait bien que le noyau fonctionnel le fasse pour nous. Et malheureusement, on n'est pas dans un monde idéal. Et c'est un des. Dans les trois trucs là, c'est un de ceux qui est le moins bien fait par les noyaux fonctionnels. Et pourquoi c'est un problème ? Parce que, par exemple, si je reviens sur les menus, là, j'ouvre mon menu, si j'ai un truc qui est grisé alors que c'est pas possible, alors que c'est en vrai, c'est possible, du coup, peut-être que le côté interface utilisateur, voilà, je suis obligé de regarder dans quel état je suis dans mon application, est-ce que j'ai tel outil sélectionné, est-ce que j'ai ceci. Donc, je suis obligé de dupliquer des préconditions, en fait, de vérifier que je suis dans des conditions d'application, alors que le noyau fonctionnel, lui, le fera de toute façon. Et donc, du coup, ça peut être des tests qui sont assez compliqués et que je suis obligé de faire côté interface utilisateur et côté noyau fonctionnel. Et s'ils ne sont pas pile synchronisés, s'il y a des cas que je rate, je peux rendre impossible des trucs qui seraient normalement possibles. Au travers de l'interface, je rends des trucs impossibles alors que le noyau fonctionnel en fait, peut le faire. Ou au contraire, donc dans ce cas-là, je perds des choses. Ou au contraire, je peux rendre au travers de l'interface autoriser le fait d'utiliser telle ou telle fonction qui en fait va faire planter derrière. Donc c'est vraiment le noyau fonctionnel qui est en tout cas pour les aspects sémantiques, c'est le noyau fonctionnel qui est le mieux placé. Pour les aspects syntaxiques, typiquement vérifier qu'il y a un arrobase dans une adresse mail ou vérifier qu'une date est bien dans le format jour, mois, année, ça peut être l'interface. Mais encore une fois, du coup, c'est s'exposer quand même à des risques parce que par exemple dans l'interface on peut vérifier un format particulier pour une date et en fait se tromper parce que un jour les gens qui programment le fonctionnel ont décidé que les dates finalement on va arrêter d'utiliser un format genre mois, jour, année comme font les Américains là, mais on va prendre un truc un peu soit jour, mois, année, soit année, mois, jour. Donc si ça change côté noyau fonctionnel et puis que dans mon interface, je ne suis pas au courant et je fais toujours les mêmes tests, et ben du coup, mes trucs ne seront pas alignés, quoi. Donc, ça devrait être fourni par le noyau fonctionnel. Donc, voilà pour la prévention des erreurs. Encore une fois, c'est le truc le plus compliqué. Et puis, l'annulation. L'annulation, ça, vous avez c'est peut-être même trop simple. Il y a des gens qui ne pensent pas parce qu'ils ont des exemples sous le nez, quoi. Alors, naviguer dans un système de fichiers pour l'annulation.
Oui, genre quand on navigue dans un fichier, on fait précédent ensuite, par exemple.
Ouais, ok. Oui, pourquoi pas. Je réfléchis parce qu'en fait, comme la navigation, elle n'a pas tellement d'effet de bord, c'est-à-dire qu'elle ne va pas modifier le système de fichiers. Revenir en arrière, quoi je veux dire, mais si on allait trop loin dans une arborescence, ça n'a pas tellement de... Mais effectivement, plutôt que d'accord. De renaviguer, on peut considérer ça comme l'annulation, à la limite. Ouais.
Sinon, juste le bouton croix quand on fait une action, non ? Ça suffit pas. Ah, le bouton qui ferme la fenêtre, par exemple, quand on écrit un mail, on appuie sur la croix et ça...
Alors oui. Oui, ça annule l'action en cours. Un exemple, c'est je presse un bouton et puis je sors du bouton et je relâche à l'extérieur. Donc mais ça, pareil, on ne fait pas l'action. Ce n'est pas tellement qu'on annule l'action qu'on a faite, c'est qu'on ne fait pas l'action. Il y a un exemple là dans le chat, un jeu d'échecs. Si on a un bouton, revenir en arrière. Quoi, et là, du coup, on annule vraiment un truc qui peut avoir un effet de bord. Je joue un truc et l'ordinateur qui joue contre moi me mange ma reine. Je reviens en arrière. Okay. Donc il y en a des exemples, il y en a dans tous les il y en a un petit peu dans tous les logiciels à partir du moment où on a de l'édition. Par exemple, si vous avez un éditeur de texte, vous avez fait une mise en forme, vous voulez revenir en arrière, vous avez fait donc dès qu'on a de l'édition, souvent on a la possibilité de revenir en arrière. Un éditeur d'image, pareil, j'applique un filtre, je peux annuler ça. Est-ce qu'on peut reprendre l'exemple du téléchargement pour l'annulation? Oui, quand on annule un téléchargement, du coup, ça l'arrête et puis ça enlève les bouts de fichiers qu'on a déjà téléchargés. Donc, il y a plein, plein d'exemples. Ça, c'est quelque chose de banal, l'annulation. Okay. Alors, la question suivante. Alors, ça, c'est peut-être un peu lointain pour tout le monde. Quoi, j'avance, hein, sauf si vous avez, n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite ou si je. La question suivante, pour supprimer un fichier, l'utilisateur Bob utilise un terminal. Son interaction se passe ainsi. En gras, les commandes entrées par Bob. Donc il fait C temp machin, C command not found, CD, LS, hop, il a RM, LS, check check. Alors petit A, expliquer en quoi il ne s'agit pas de manipulation directe. En détaillant les principes de celles-ci qui ne sont pas vérifiés dans cet exemple. Alors ça, c'est peut-être lointain. Qui se souvient de ce qu'est la manipulation directe? Ouais, alors si vous reprenez le cours, le tout premier cours, on doit en parler à un moment. Tac, alors je remonte là. Hop, hop. Et ça, je me souviens qu'on l'a fait ensemble. Pouf, 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 pouf. Interface, interaction, tac, 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 interaction de machine, style d'interaction. Voilà, on arrive au style d'interaction et on arrive à la manipulation directe dans un des styles. Voilà, donc je dirais, oui, donc c'est du. En fait, un exemple typique, c'est effectivement le drag and drop. Hein. Et donc, il y a une définition de ça, c'est on utilise des métaphores. C'est le début de l'interface graphique, donc des écrans bitmap. Vous vous souvenez, je vous avais montré le Xerox Star là, avec avec les fenêtres, les boutons. En fait, c'est le début des bureaux tels qu'on. De la métaphore du bureau que vous connaissez, en fait, qui est encore en cours de nos jours, 40 ans après. Et donc, en fait, on a des métaphores, c'est-à-dire qu'un fichier, plutôt que ce soit juste des octets sur un disque dur, etc., on va le représenter avec une icône sur le bureau. Et donc, en fait, on a des représentations des objets d'intérêt, d'accord, des représentations graphiques, et on agit dessus par l'objet, alors des actions physiques, en fait, principalement, effectivement, du drag and drop. Donc ça, c'est une des premières choses, l'utilisation de métaphores. C'est un des trucs qu'il y a dans la manipulation directe. Et on a des opérations qui sont rapides, incrémentales et réversibles. Et ça, si vous vous souvenez un petit peu, c'est cette idée, vous vous souvenez au début, quand on a introduit ces définitions d'interface, interaction, etc. Je vous avais fait un dessin avec une boucle. Où d'un côté, on est dans le monde physique avec l'utilisateur qui a ses perceptions, son action. De l'autre côté, on est dans le monde numérique. L'interface, c'est ce qui sépare les deux. L'interaction, c'est la boucle qu'il y a entre les deux. D'accord ? Et la manipulation directe, en fait, c'est pour que la boucle qu'il y a entre les deux, que le passage dans le monde numérique se fasse de manière tellement rapide. Peut-être que je vais vous refaire le dessin pour mettre ça en... Comment je peux faire ? Si je peux faire ça, check. Hop. Hop, je partage ça et normalement je dois pouvoir gribouiller dessus. Où suis-je là? L'idée, si je refais le dessin, on mettait, alors bon, quel que soit le sens, on mettait le bonhomme d'un côté, d'accord? Le bonhomme ou la bonne femme d'un côté, tchouk. On mettait, donc ça c'est le monde physique. Donc on est dans le monde physique. On mettait le monde numérique de l'autre côté. Ok, avec ici, bon, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein, un nuage, c'est le cloud maintenant, mais c'est le CPU, la RAM, etc. Donc c'est ce qu'il y a dans la boîte de l'ordinateur auquel on n'a pas accès. Et donc, on a l'information qui passe comme ça et comme ça, et qui fait une boucle. Okay. La séparation, donc j'en profite pour faire des petites révisions. La séparation, là, c'est ce qu'on a appelé l'interface. Donc, c'est ce qui permet de passer d'un monde à l'autre avec... un écran dans un sens, mais ça peut être un haut-parleur, ça peut être. Donc on passe du monde numérique, des petits signaux électroniques auxquels vous n'avez pas accès, à un monde physique, une perception, donc de la lumière ou du son, etc. Et dans l'autre sens, vous agissez, donc vous appliquez une force mécanique, ou même si c'est un écran touch, etc., il y a un phénomène physique, okay, et c'est converti en. Une petite succession d'octets qui rentrent et qui sortent de l'ordinateur. Okay. Donc, on repasse dans le monde physique de l'autre côté. Donc, l'interface, c'est la séparation entre ces deux milieux. Et l'interaction, c'est cette boucle. Okay. Ça, c'est ce qu'on appelle l'interaction, c'est-à-dire que vous agissez alors dans le monde physique, interaction, vous agissez dans le monde physique, ça modifie l'état de ce qu'il y a côté numérique. Cet état, il est présenté, il repasse dans le monde physique pour que vous puissiez vérifier que tout s'est bien passé, que vous avez bien fait ce que vous vouliez faire. D'accord? Si vous cassez d'un côté, c'est-à-dire si l'état de votre système il n'est pas représenté, et ben du coup, vous n'avez plus une boucle et ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui reposent de votre côté. Un exemple de ça, sans aller très, très loin et sans faire de. Par exemple, si vous utilisez VI comme traitement de texte, vous n'avez rien dans les versions de base de VI, le mode dans lequel vous êtes d'édition, est-ce que vous êtes en train de. Dans le mode commande ou dans le mode édition, il n'est pas affiché à l'écran. Donc vous ne voyez pas l'état. Donc si vous arrivez devant une session VI, vous ne savez pas trop si quand vous allez taper du texte, ça va entrer des commandes ou ça va taper du texte. Donc, en général, on fait escape pour commencer, pour être sûr de se ramener à un état connu. Donc le. Alors, oui, je suis. On me demande ce que veut dire incrémental là dans le chat. J'y viens, hein, j'ai pas oublié de quoi on parle. Donc ça, c'est le schéma global de l'interaction. Et la manipulation directe, l'idée qu'il y a, c'est le fait qu'on va avoir donc des opérations qui sont incrémentales, rapides, incrémentales, réversibles. Alors, pour le rapide et incrémental, en fait, l'idée derrière, c'est que cette boucle bleue-là qui fait de l'interaction, si on arrive à ce que la partie numérique se fasse suffisamment vite, d'où le côté rapide, suffisamment incrémental, c'est-à-dire se fasse au fur et à mesure. Vous attrapez un fichier, vous bougez la souris, le fichier bouge au fur et à mesure. D'accord? Donc si vous réunissez ces conditions-là, rapide et incrémental, du coup, la boucle, du point de vue de l'utilisateur, on a l'impression qu'elle a lieu uniquement dans le monde physique. Okay. C'est-à-dire que au lieu de. Alors, de toute façon, hein, il y a effectivement la boucle bleue qui a lieu. Mais quand vous attrapez l'icône d'un fichier, que vous le mettez sur l'icône de la poubelle et que l'icône du fichier disparaît, vous avez l'impression d'avoir, bien que ce soit juste des pixels qui changent de couleur sur une grille d'écran, vous avez l'impression d'avoir attrapé un objet, d'avoir mis cet objet-là à la poubelle, et donc le fichier a été mis à la poubelle. Et donc la métaphore devient tellement, on peut appeler ça transparent, mais elle devient tellement forte du fait de ce couplage entre vos actions et leur effet, que vous avez vraiment l'impression que cet objet existe, que un fichier devient sa représentation. L'icône du fichier, c'est le fichier pour vous. Et quand vous le mettez à la poubelle, vous avez vraiment supprimé le fichier. En fait, ce qui se passe derrière, c'est que le file system va mettre un flag quelque part pour dire que cette partie-là n'est plus utilisée, ou va simplement, dans le cas de la corbeille, le mettre dans un répertoire particulier qui s'appelle corbeille, ou des choses comme ça. D'accord? Mais du coup, vous, cognitivement, vous n'avez pas besoin de franchir de descendre dans les arcanes du système en vous disant bah, il y a un file system, etc. Vous restez dans le monde physique, vous avez des petites icônes, et ces icônes, ce sont les fichiers. D'accord? La métaphore, elle est devenue tellement forte que la métaphore elle-même est devenue l'objet lui-même. D'accord? Donc là, les aspects incrémental et rapide, c'est pour avoir cette boucle-là et qu'on ait l'impression qu'on reste dans le monde physique. Okay. Et alors réversible, c'est le troisième côté. En fait, ça va avec, et c'est surtout pour pouvoir. Du coup, si je l'ai mis dans la poubelle, je peux aller le chercher dans la poubelle. Et ça, ce côté d'intéressant, c'est que du coup, j'ai pas peur, vu que mes opérations peuvent être annulées à tout moment. J'ai pas peur de faire des choses et du coup d'essayer pour voir ce que ça donne. Et si jamais je fais quelque chose qu'il ne fallait pas faire ou qui ne marche pas ou qui a une conséquence qui n'est pas celle que je voulais, je reviens en arrière. Et du coup, je n'ai pas peur d'explorer le système, je n'ai pas peur de tenter des choses et il devient plus facile à apprendre de cette manière-là. Donc voilà, alors, voilà pour la manipulation directe. Tchac, alors si on revient à la question de cours qui était là, je pense. Tac. Où suis-je? Non. Pouf, pouf, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en quoi il ne s'agit pas de manipulation directe? Et en détaillant les principes qui ne sont pas vérifiés dans cet exemple. Alors, les principes de la manipulation directe, là, j'ai des métaphores, une représentation des objets d'intérêt. Alors là, est-ce que j'ai une représentation des objets d'intérêt dans un terminal? Ben non. C'est-à-dire que mes fichiers, ils ne sont pas là. C'est-à-dire que pour que l'état de mon file system n'est pas affiché à l'écran. Pour pouvoir voir si les fichiers sont là ou pas, il faut que je fasse ls, par exemple. D'accord ? Donc, je n'ai pas une représentation continue des objets d'intérêt. Est-ce que j'ai des opérations rapides ? Alors ça, on peut sans doute. Hein, si je fais rm, c'est sans doute même plus rapide que la suppression en faisant un drag and drop à la poubelle. Donc, c'est sans doute pas ça qui est en cause ici. La question, c'est plus sur incrémental et réversible, du coup. Est-ce que c'est incrémental ? Ben non. C'est-à-dire que je fais RM, mon fichier a disparu, et voilà, c'est tout ou rien. Je passe d'un état à un autre sans transition entre les deux. Et est-ce que c'est réversible ? Ben non. Si je fais RM, je peux... Alors, sauf outils très... un peu sophistiqué, mais a priori, quand je fais RM,
je peux après, pas récupérer. On peut quand même le déplacer dans un dossier corbeille, quoi.
Oui, oui, tout à fait. Mais l'exemple là, je faisais RM.
Ah oui, oui. Okay.
Voilà. Et alors, du point de vue de la théorie de l'action de Norman, comparer les différentes distances en jeu pour les deux utilisateurs. Familier avec les ordinateurs, l'un étant habitué à gérer la ligne de commande, l'autre non. Alors, très honnêtement, je ne me souviens plus si on a eu le temps de parler de la théorie de l'action de Norman. Donc, je ne comptais pas vous poser de questions dessus, mais je suis quand même intéressé. Vous vous souvenez si on en a parlé ou pas? Bon, c'est un constat d'échec pour moi parce que si. Moi, je ne m'en souviens pas. Et ouais, ça ne vous parle pas non plus. Bon. Okay. Bien. Il me semble pas en avoir parlé cette année. Donc la théorie de Norman, c'est juste, je vais vous en dire deux mots, mais j'en parlerai pas à l'examen. Non, c'est en complément du cours. D'ailleurs, dans le sujet d'examen, je montrais ce schéma-là. En fait, on parle de où je vais vous repasser notre schéma de l'interaction là. Donc Norman, c'est quelqu'un qui faisait de la psycho-expérimentale, quoi qu'il fait toujours, il est toujours vivant d'ailleurs, Don Norman. Et il a écrit un livre très célèbre qui s'appelle The Psychology of Everyday Things, donc la psychologie des objets du quotidien. Et en fait, il est connu pour avoir... populariser au moins une notion de psychologie, mais de psychologie expérimentale, qui est la notion d'affordance. Donc, on a gardé le terme en français, c'est un anglicisme. En gros, c'est cette idée que les objets, dans leur forme, doivent nous expliquer, en tout cas, nous suggérer la manière dont on les utilise. Et, par exemple, une tasse avec une poignée, la forme de la poignée fait qu'on va attraper la tasse par la poignée. Une poignée de porte. Alors, au-delà de simplement saisir par la poignée, une poignée de porte, en plus, sa forme fait que mécaniquement, en la prenant, on va avoir tendance à appuyer sur la poignée. Et donc, même si si vous voyez une nouvelle poignée de porte que vous n'avez jamais utilisée, ou une manière d'ouvrir une porte bizarre, genre une barre pour les portes de secours, un truc comme ça, en poussant ou en disons que l'action mécanique la plus spontanée va ouvrir la porte. Okay. Et donc c'est ça qu'il appelle une affordance. Et donc c'est un terme du coup qu'il a transposé, donc qui est très utilisé en design de produits. On veut que quand on fasse un produit, sa forme nous aide. Exemple typique où c'est poussé à l'extrême, c'est tout ce qui est packaging. Apple a beaucoup travaillé là-dessus. Vous ouvrez la boîte de votre nouveau Mac ou de votre nouvel iPhone, il y a un petit truc à soulever. Donc, il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire à un moment donné. Et du coup, vous avez les choses qui vous arrivent dans les mains au fur et à mesure, dans l'ordre où ça arrive. Oui, oui, tout à fait. Alors, qui dit qu'on voit les objets comme des outils ou comme des obstacles, je ne suis pas sûr. Je connais pas hein, tout Norman. Hein. Moi, je vous en fais un résumé très, très succinct. Hein. Et donc, cette notion d'affordance, en gros, c'est le fait qu'on ne va pas avoir besoin de mode d'emploi et qu'un objet, sa forme doit suggérer son usage, doit en tout cas guider son usage. Et donc, c'est un concept qui a été transposé en interaction de machine, évidemment. C'est-à-dire que vous avez un logiciel. Du coup, plutôt que de prendre un mode d'emploi pour regarder comment s'en servir, bah, vous commencez à l'utiliser et petit à petit, les choses évidentes au début doivent petit à petit... Vous allez pouvoir découvrir l'interface comme ça. Alors, il a tout un travail théorique il a ce qu'il appelle la théorie de l'action où il formalise un petit peu, il formalise cette partie de la boucle. C'est-à-dire ce qui se passe de notre côté à nous, quand on est en train de se servir d'un système. Et en gros, il dit qu'on a des distances. Le monde numérique, là, il va stocker ces informations, etc. Il y a un modèle qui est en fait un modèle de données, de comportement, etc., qui est précisé par le programme lui-même. C'est-à-dire que c'est complètement déterministe. La plupart du temps, on peut dire ce qui va se passer. Mais nous, quand on utilise le logiciel, on n'a pas accès au code source. En tout cas, on ne va pas s'amuser à lire le code source. Donc, ce déterminisme-là, il n'est pas complet. C'est-à-dire qu'on peut pas. On est obligé, nous, de notre côté, de nous construire un modèle du logiciel qu'on utilise. Et on ne se le construit pas en lisant le code source, et on se le construit de moins en moins en lisant le mode d'emploi du logiciel. D'accord ? On se le construit en utilisant le logiciel. Et donc, la théorie de l'action, c'est cette idée qu'à un moment, on a notre modèle à nous de comment ça marche, il y a comment ça marche vraiment, et entre les deux, il peut y avoir un écart. Et donc, cet écart, en fait, il le symbolise, il appelle ça des distances. Et en fait, en anglais, il utilise le terme « gulf », qui a été traduit par « gouffre » ou le « golf », c'est-à-dire un grand espace, un gouffre, un grand trou à parcourir entre notre… Alors, si on le figure comme ça, on a notre modèle à nous, ce qu'on appelle le modèle mental, de comment marchent les choses, et on a comment ça marche vraiment. Donc ici, le modèle réel, entre guillemets, de comment ça marche. Et donc, quand on va utiliser un système, on a une distance à parcourir entre lui et nous. Une distance qui ne se mesure pas en mètres, hein, c'est une distance abstraite. Et ce que dit Norman, et donc cette distance, elle existe des deux côtés, en entrée et en sortie. En gros, il faut qu'on traduise de notre langage à nous au langage que comprend l'ordinateur et dans l'autre sens, du langage que comprend l'ordinateur vers des choses qu'on comprend. Donc, il y a une traduction entre les deux et une mise en correspondance entre ces deux modèles. Et ce que nous dit Norman, c'est que plus il y a un grand gap ou un grand gouffre entre les deux modèles, bah, plus ça va être compliqué de se servir du système. Okay. Et cette distance-là, il la sépare en deux parties. Donc, c'est le gros truc de la théorie de l'action. Il la sépare en une partie qui est une partie cognitive ou sémantique. On va l'appeler sémantique. Et une partie alors qu'on pourrait appeler syntaxique, mais qu'il appelle articulatoire. Et en gros, il y a une partie, pour faire rapidement, la partie sémantique, c'est la partie traduction. Il faut que je sache dans quel langage parler à l'ordinateur. Donc ça, on ne peut pas l'inventer, il faut l'apprendre. Typiquement, la partie sémantique, c'est vous êtes devant votre ligne de commande. Si vous savez comment changer de répertoire en faisant CD, bah, c'est bien. Si vous savez que pour supprimer, il faut faire RM, c'est bien. Okay. Si vous savez ni l'un ni l'autre, vous avez une distance ici sémantique qui est infinie. C'est-à-dire que du coup, suivant si vous avez appris à vous servir ou pas, vous avez une distance qui est zéro parce que vous savez, ou une distance infinie parce que vous ne savez pas pour la distance sémantique. Et la distance articulatoire, C'est si vous savez à quel point c'est compliqué de faire, et de faire au sens mécanique. C'est-à-dire, si vous avez une commande où il faut taper 150 caractères dans le bon ordre, etc., bah, c'est plus compliqué que si la commande fait deux caractères, parce qu'il y a juste deux touches à taper. S'il faut cliquer sur un tout petit bouton qui fait un pixel et qui bouge sur l'écran, c'est plus compliqué que de taper sur un gros bouton qui ne bouge pas au milieu de l'écran. D'accord ? Donc la partie articulatoire, la distance articulatoire, elle mesure à quel point c'est dur ou pas de le faire d'un point de vue mécanique. Donc on sait ce qu'il faut faire, on ne se pose plus de questions, mais est-ce que c'est facile ou pas ? Et la distance sémantique, c'est on ne sait pas ce qu'il faut faire, quoi, c'est à nous de faire la traduction. Ok ? Et alors, du coup, les interfaces manipulation directe, elles visent à réduire la distance sémantique principalement. C'est-à-dire, en utilisant des métaphores, on vous raccroche à des choses que vous connaissez déjà pour que vous puissiez réutiliser les connaissances que vous avez dans ce domaine. Et puis, tout ce qui est ergonomie, d'un point de vue, bah, bien placer les boutons, faire en sorte que les commandes ne soient pas trop longues, que dans les menus, il n'y ait pas 10 000 choix, etc. On est plus du côté articulatoire. Okay. Donc voilà pour la théorie de l'action de Norman. Je ne développe pas plus. C'est des choses, on n'a pas eu le temps d'en parler en cours. Je pense que c'est important. Vous en reparlerez pour ceux qui suivent l'option d'ergonomie des IHM au second semestre. Vous en reparlerez très vraisemblablement. Voilà. Et donc la question suivante, poser des questions. Là-dessus, d'un point de vue de la théorie de l'action de Norman, comparer les différentes distances en jeu. Et donc, évidemment, là, comme il fallait connaître les commandes CD, les commandes LS, etc. Donc, si on ne les connaît pas, bah, du coup, on a une distance sémantique qui est infinie. Par contre, on a une distance articulatoire qui n'est pas très grande parce que c'est des commandes qui sont courtes, etc. Mais si on ne les connaît pas, évidemment, on ne peut pas les inventer. Voilà, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec ce sujet-là? Ou est-ce que vous voulez qu'on pioche d'autres questions de cours dans d'autres sujets? Pas d'avis?
Moi, j'avais une question sur un sujet où il y a des handlers et vous nous... C'est plus une question pratique qu'autre chose. C'est si on a des handlers, est-ce qu'on est obligé d'en faire, ou, enfin, si vous nous poussez à le faire, est-ce que du coup ça veut dire qu'on est obligé d'en le faire, ou parce que à la base j'avais pas vu, moi j'avais fait plutôt des listeners par exemple.
Oui, mais, non, mais c'est parce que les. Attention, les sujets des années récentes là, on n'utilisait pas Swing en TP, on utilisait JavaFX.
Ah oui, ok.
Et JavaFX, en fait, les listeners s'appellent des handlers, tout bêtement.
D'accord. Okay.
Alors, ils ont ce site particulier qu'ils ont. Nous, on a des mouse press, mouse release, mouse ceci. Et en fait, eux, ils n'ont qu'une seule méthode qui s'appelle handle. Et du coup, à l'intérieur de la méthode handle, il faut faire le tri entre les événements.
D'accord. Okay.
Allez faire le... Mais du coup, moi, le sujet d'examen, ce sera essentiellement sur le. Quoi, on utilisera Swing.
D'accord. Okay. Donc, il n'y a alors, pas de question à se poser.
Ok. Alors, du coup, j'ai deux sujets qui sont demandés dans le chat. Là, reparler des callbacks et revoir minimaliste, maximaliste. Alors, je regarde s'il y a des sujets. Manipulation directe. Alors, ça, c'est un exemple. De questions, donc question 2 là dans le sujet 2016-2017. Vous faites partie d'une équipe chargée de développer une nouvelle interface pour un logiciel existant. Dans le code du noyau fonctionnel, vous découvrez le passage suivant. Donc plutôt que vous poser des questions bêtes de cours, j'essaie d'avoir un truc un peu concret pour que ça vous parle. Quels sont les problèmes que vous identifiez dans ce code? Vous voyez, on est dans un noyau fonctionnel. Je vous laisse découvrir un petit peu le truc. On a une classe qui s'appelle UI Updater, qui a une boucle. Tant que la boucle n'est pas terminée, Elle fait UI.sensorlabel.setText. Donc elle va dans l'interface, il y a un objet qui s'appelle le sensorlabel, donc qui est vraisemblablement un truc d'affichage. D'ailleurs, le commentaire vous dit met à jour l'affichage de la valeur mesurée par le capteur. Donc on fait un setText dessus. Et on récupère la valeur du capteur sensor qu'on met à jour dans l'affichage. Et puis on s'endort pour un dixième de seconde. Alors, du coup, dans les problèmes, le sleep et la boucle bloquent l'interaction. Alors, oui et non, sauf qu'on n'est pas côté interaction. D'accord? Puisqu'on vous dit, vous êtes dans le noyau fonctionnel. Donc, du coup, alors, ça, c'était le premier truc à voir. Et en fait, si vous avez, si je vous, je sais pas, hein, je présage pas du sujet, il n'est pas encore complètement écrit. Mais si vous avez une question comme ça, passez-la au crible des grands principes qu'on s'est donnés, d'accord, en architecture. Et donc, le principe numéro un vous dit, bon, on sépare le noyau fonctionnel et l'interface. Alors là, on a l'impression que c'est fait, puisqu'on a un truc noyau fonctionnel interface. Et le principe numéro 2, on disait quoi? On disait que on minimise les dépendances, si vous vous souvenez, et donc que on a un des deux côtés qui ne doit pas dépendre de l'autre. Je vous laisse réfléchir. Normalement, vous devez être capable de retrouver si c'est le noyau fonctionnel qui dépend de l'interface ou si c'est l'interface qui dépend du noyau fonctionnel. Okay. Et donc, vous vous souvenez, c'est l'interface qui dépend du noyau fonctionnel. On a donné plusieurs justifications à ça. L'interface dépend du noyau fonctionnel. Pourquoi? Bah parce que si c'était le noyau fonctionnel qui dépendait de l'interface, on ne pourrait pas faire plusieurs interfaces pour le même noyau fonctionnel. Dès qu'on change un truc dans le noyau fonctionnel, il faudrait recoder l'interface, etc., etc. Okay, donc il y a plusieurs justifications qu'on avait passé un petit peu de temps à les expliquer. Et donc ici, notre noyau fonctionnel, bah, il dépend de l'interface tout bêtement, puisqu'on a un UI point quelque chose. Le jour où je change mon interface, je décide que ce n'est plus un label qui affiche le sensor, mais que c'est un truc graphique avec une jauge. Et bah, faut que je réécrive cette partie-là de mon noyau fonctionnel. OK? Voilà. Donc,
Il n'y a pas un problème d'attente active aussi?
alors, donc ça, c'est le premier problème, effectivement. Et on a un deuxième problème. C'est qu'effectivement, en fait, on fait une boucle et on décide de faire la mise à jour toutes les 10 millisecondes. Et entre-temps, on s'endort, donc notre noyau fonctionnel ne peut plus rien faire. Alors, c'est peut-être dans un thread, on n'en sait rien, le code ne vous dit pas ça. Mais en tout cas, la mise à jour, elle va être faite non pas quand la valeur change, mais elle va être faite toutes les 10 millisecondes. Donc, peut-être c'est trop souvent, peut-être c'est pas assez souvent, etc. Donc c'est le deuxième problème, effectivement.
Mais j'avais compris qu'en gros, dans le noyau fonctionnel, c'était lui qui choisissait quand c'est qu'il se mettait à jour et tout. Et du coup, c'était à lui de. Il pouvait faire du polling, mais avec les valeurs qu'il avait décidées lui.
Tout à fait, ça ne nous concerne pas en fait. Effectivement, c'est peut-être une bonne chose là, hein,
D'accord.
la boucle avec la pause de 10 millisecondes. Dans la correction, ceux qui me disaient que c'était un problème, je comptais juste, ceux qui me disaient que c'était pas un problème parce que le quoi vous semble le justifier, effectivement, en fait, ça ne nous concerne pas tellement hein, ce qu'il y a dans le noyau fonctionnel.
Ok, merci.
Okay. En tout cas, le problème qu'on a là, c'est le problème de séparation entre noyau fonctionnel et interface. Alors, quelles modifications allez-vous suggérer à l'équipe du noyau fonctionnel? Bah, la solution simple qui est rapportée en gros la moitié des points, c'est de. En fait, si vous prenez cette boucle-là et que vous la mettez côté noyau fonctionnel, côté interface, du coup, ça marche. Vous respectez, hein. C'est-à-dire que votre interface, elle se met à jour elle-même et elle fait fc.sensor.getValue. Elle va chercher la valeur du sensor côté interface. Et du coup, là, elle fait du polling. Et là, on se retombe sur un problème numéro 2, c'est que du coup, on se retrouve côté interface en train de faire du polling et de demander toutes les 100 millisecondes quelque chose. D'accord? Et donc la vraie bonne réponse, c'était de dire que donc ça, c'est une possibilité, ce qu'on appelle la notification du pauvre, quoi. C'est-à-dire qu'on le fonctionnel nous permet d'accéder à son état, on peut faire get value, donc c'est déjà mieux que rien. Mais la bonne solution, c'est ce que vous avez, ce qu'il y a, ce que plusieurs suggèrent là, c'est que au lieu d'une boucle côté interface, on mette en place collaboration avec le noyau fonctionnel un mécanisme de notification pour pouvoir s'abonner au noyau fonctionnel et que le noyau fonctionnel nous prévienne quand la valeur du capteur change. Okay. Donc voilà, donc c'est le genre de choses que je peux vous demander, vous donner un petit exemple de code et de l'analyser au regard des critères qu'on s'est donnés et du refactoring, comment vous, étant donné ce code-là qui a des soucis, identifier les problèmes et comment le réécrire. Okay. Donc c'était un petit peu pour répondre à la question sur la notification. Je pense que dans d'autres sujets, il doit y avoir des questions un peu plus courtes sur la notification. Voilà, typiquement, ça c'est une question. Pourquoi faut-il séparer le noyau fonctionnel de l'interface? Alors ça, on a donné des exemples en cours, des justifications en cours, peut-être que je répondrai à la question juste après. Mais vous voyez, quel mécanisme permet au noyau fonctionnel d'appeler des fonctions de l'interface tout en le maintenant indépendant de cette dernière? Donc, typiquement, voilà, notification, là, c'est vraiment la définition des callbacks, quoi. Donc, en gros, je m'attendais à ce que les gens me disent les callbacks. Et donc, le début de la question, c'est pourquoi faut-il séparer le noyau fonctionnel de l'interface? Ça, on l'a justifié en cours. Donc pareil, il faut que vous soyez capable de retrouver un petit peu les arguments sans me les cracher par cœur, quoi. En même temps, si vous les avez écrits sur votre feuille et que vous me recopiez ce que vous avez écrit sur votre feuille, voilà, au moins vous savez, vous avez compris la question, c'est déjà pas mal. L'idée, il y avait plusieurs justifications, si vous vous souvenez, il y avait des justifications sur le fait que dans les équipes, on n'a pas forcément les mêmes compétences. Le noyau fonctionnel, c'est tout ce qui a trait algorithmique, complexité, etc., réseau, machin. Et interface, c'est plus évidemment tout ce qui est facteurs humains et puis tout ce qui est principe de réalisation, quoi. Donc, on n'a pas les mêmes équipes. On n'a pas forcément les mêmes méthodes de développement avec le développement de l'interface qui peut être beaucoup plus itératif et peut-être moins formalisé que le développement du noyau fonctionnel. Alors ça, c'est la vision pas idéale, mais la vision où le noyau fonctionnel, on a une spec et tout, ce qui est en fait pas tellement plus vrai que quand on fait de l'interface utilisateur. Et que sur l'interface utilisateur, même si on part avec une idée de ce qu'on veut, la spécification est peut-être moins formelle, donc on a des schémas, etc. Et puis petit à petit, en prototypant ou même en codant notre interface, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aimerait bien faire un petit peu différemment. Et du coup, on a du développement beaucoup plus itératif. On peut avoir du développement beaucoup plus itératif. Donc voilà pour un exemple de questions de cours sur ces questions-là, un petit peu de ce qu'on a vu au début du cours. Alors j'avais une autre question. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, attendez, je ne me souviens plus. Ah, minimaliste et maximaliste. Oui, tout à fait. Donc ça, j'ai dû le poser aussi une année ou deux. C'est quoi minimaliste, c'est quoi maximaliste? Non, je ne retrouve pas d'exemple. Mais c'est pas très grave. Tac, tac, tac. Donc sur les boîtes à outils, en gros, c'était cette question où en Java, mais c'est pas vrai que en Java, hein, dès que sujet de 2019, d'accord. C'est au tout début. Il existe deux sortes de boîtes à outils de construction d'interface, celles qui ont une approche minimaliste et celles qui suivent l'approche maximaliste. Expliquer en une phrase ce qui les distingue. Donc le, alors je vais faire en plus d'une phrase et après vous piocherez quand on essaiera de résumer ça. Mais en gros, le compromis qu'il faut faire quand on fait une boîte à outils qu'on veut portable, donc ce qui est le cas par exemple de Java, mais de Qt ou de tous les gens qui font des boîtes à outils qui doivent être multiplateformes, vous avez ça dans TK avec TickleTK ou qui intègre dans Python, donc qui doit marcher un peu partout. Vous avez deux options, soit vous recodez de fond en comble les boutons, tous les widgets dans le langage que vous avez choisi. À ce moment-là, vous avez quand même besoin de collaborer avec le système pour ouvrir une fenêtre et puis pour récupérer les événements, grosso modo, hein, pour la partie interaction. Et donc, vous construisez comme ça une fondation à bas niveau qui, elle, va falloir une implémentation par plateforme. Donc, ouvrir une fenêtre, dessiner des pixels dedans, récupérer les événements de la souris. Et vous construisez, vous dessinez vos widgets vous-même à la main, à la main. Votre code à vous dessine les boutons, dessine les scrollbars, etc. D'accord? Et donc ça, c'est l'approche qu'on appelle, petit quiz, minimaliste. D'accord? Pourquoi minimaliste? Parce qu'on utilise le moins possible le système sur lequel on est. Okay? Et donc, on l'utilise le moins possible, ça veut dire aussi qu'on en dépend le moins possible. Et l'approche maximaliste, au contraire, essaye de réutiliser le plus possible le système sur lequel on est. Donc, par exemple, donc on ouvre les fenêtres évidemment en appelant le système, mais pour créer un bouton, on va essayer d'utiliser le bouton qui existe sur le système qu'on utilise. Et donc, ça nécessite des passerelles. Par exemple, si votre toolkit, vous êtes en train de faire du Java, la boîte à outils native de Windows ou du Mac, etc., elle n'est pas écrite en Java. Donc, il faut pouvoir appeler du code. Quand vous faites un new JButton alors, c'est pas un exemple puisque Swing est minimaliste, mais avec AWT, vous faites un new button de AWT ou avec SWT. Et du coup, ça va appeler du code natif qui est wrappé avec des JNI, là, avec Java Native Interface, pour aller parler à une librairie dynamique, typiquement, dans laquelle on peut instancier des objets boutons qui vont être du code compilé. Si vous êtes sur le Mac, c'est de l'Objective-C, ou quoi, du C, de l'Objective-C. Si vous êtes sous Windows, du C et du C++, des choses comme ça. Okay. Donc ça, c'est l'approche maximaliste. Donc en une phrase qui les distingue, c'est le niveau de réutilisation qu'elles font et du coup le niveau de dépendance qu'elles ont envers le système hôte. D'accord? Réutiliser plus ou moins le système hôte et dépendre plus ou moins du système hôte. Et donc les avantages et les inconvénients des deux approches, ils sont un petit peu symétriques, c'est-à-dire que les avantages... Pour ce qui est minimaliste, comme on ne dépend pas trop du système hôte, du coup, toute notre boîte à outils, elle est écrite purement en Java, en Python, ou en je ne sais quoi. Et la partie des widgets, on l'écrit une fois pour toutes les plateformes, puisque un bouton, ça va être dessiner un rectangle, mettre du texte dedans, et ça, on n'a pas besoin de le réécrire. On a juste besoin de réécrire la couche, si on veut supporter une autre plateforme, la couche qui permet d'ouvrir les fenêtres. Donc, du coup, tous les widgets vont être pareils sur toutes les plateformes. Okay. Modulo, on peut éventuellement changer le look, mais en tout cas, tous les widgets qui sont présents sur une plateforme sont présents sur toutes les autres plateformes. Ce qui n'est pas le cas avec l'approche maximaliste, où là, du coup, on est obligé de réécrire tout le code et on n'a pas forcément tous les widgets, on n'a que les widgets qui existent nativement sur la plateforme. Et dans l'autre sens, on a des différences éventuellement en termes de performance, hein, ce qui est historiquement en Java, c'était vraiment le cas. Souvent, la toolkit native, effectivement, elle est beaucoup plus fluide que les toolkits minimalistes. Par exemple, Java Swing, historiquement, scroller, l'ouverture des menus, c'était des choses qui étaient très lentes. Bon, ça, c'est plus tellement vrai, mais c'était vrai historiquement. Voilà. Alors, le nom d'une boîte d'outils de chaque sorte, vous pouvez choisir. Dans Minimaliste, vous avez Swing, typiquement. Et dans Maximaliste, vous avez AWT ou SWT. Dans les minimalistes, vous avez aussi Java FX. Voilà, voilà pour minimaliste et maximaliste. Ok. D'autres questions que vous voulez qu'on traite? Alors, est-ce qu'il y en a une qui est plus rapide que vous? L'autre, oui, ce qui est les maximalistes, c'est plus rapide. Hein. SWT a été faite pour être plus. Donc, celle de Eclipse, là, a été faite pour être plus rapide que Swing, qui à l'époque était lente. Et de fait, c'est encore plus. Malgré les efforts et les ordinateurs qui vont plus vite, les performances des JVM qui ont été améliorées, etc. Si vous utilisez Eclipse, vous avez, quoi, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais peut-être suivant un petit peu les machines que vous avez. Comparer Eclipse à NetBeans sur, je sais pas, quand vous cliquez sur une table, quand vous ouvrez un. Alors souvent, c'est des choses qui ne sont pas forcément complètement perceptibles, mais c'est des choses que. C'est encore le cas. De fait, c'est encore le cas. Ah oui, MVC, j'avais un petit peu zappé. Alors MVC, je ne crois pas avoir jamais posé de questions sur MVC en examen. Mais on peut en parler quand même, hein, sans souci. Quoi, je ne sais pas si vous avez une question en tête sur MVC. Est-ce que j'en ai posé des questions en examen? Ouais, alors le rôle du contrôleur dans MVC. Alors attendez. Je vais prendre un. Hop, je vais rebasculer pour que. Pouvoir gribouiller. Check. Ça, on l'effacer. Donc MVC, c'est une architecture. Alors c'est un qui est pour un widget particulier. D'accord. Donc mettons, on a une scroll bar. Tac. Hop. Et en fait, le MVC, historiquement, vous disait, la scroll bar, elle va être coupée en trois morceaux. Vous avez le modèle, vous avez la vue et vous avez le contrôleur. Okay. Et en fait, la vue, c'est l'affichage à l'écran et le contrôleur, c'est ce qui gère les entrées. Ok. Et alors, oui, pour moi, c'est juste mes listeners. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que le contrôleur, là, alors on a un petit truc comme ça. Dans notre TP, peut-être le plus simple, le plus concret pour vous, si on se raccroche au TP grapheur, okay, la vue, c'était la classe grapheur que je vous donnais à l'origine, d'accord ? Donc elle faisait la sortie, ok ? Le contrôleur, c'était la classe interaction. Donc, c'est celle qui reçoit des événements et qui, suivant ce qu'il fait, va aller modifier les choses. Alors, dans le modèle, c'est là où ça peut être un petit peu aussi mélangé, quoi, mélangé dans votre tête, et parce que, en fait, c'est tout bêtement parce que c'est pas si clair que ça quand on regarde un petit peu comment sont faites les choses. Dans le modèle, on a une partie ici. Alors dans le grapheur, on avait tout mis ensemble. Hein, le grapheur, le modèle était et a inclus dans le grapheur. On a deux choses normalement dans le modèle. On a les données. Par exemple, on avait les fonctions du grapheur, ok, et qui sont les données qui sont liées au noyau fonctionnel. D'accord. Donc, alors, il y a une partie du modèle qui peut être dans le noyau fonctionnel. C'est pas bien clair hein, quand vous regardez les descriptions de MVC. Donc, on est à la frontière. Le modèle, là, il est à la frontière entre le noyau fonctionnel. Donc, nos fonctions, elles font plutôt partie du noyau fonctionnel. Okay. Alors, ça peut être juste un pont vers le noyau fonctionnel. Peut ne pas y avoir les données dedans. Les fonctions peuvent être dans le modèle, mais du coup, le modèle, il est un petit peu à mi-chemin entre le noyau fonctionnel et le UI. Okay. Et par contre, dans le modèle, alors dans le TP grapheur, c'était C'était clairement dans l'objet graffeur qu'on avait mis. On avait mis le x-min, le x-max. Donc, on avait des données d'état qui sont manipulées par l'interaction. Okay. Et en fait, ces données-là, est-ce qu'ils font partie de la vue? Est-ce qu'ils font partie du modèle? Bah, ça dépend un petit peu. Moi, je considère plus que ça fait partie de la vue, d'accord, parce que c'est vraiment des paramètres d'affichage. Si on a un autre affichage de nos fonctions, par exemple, on avait typiquement l'exemple avec les fonctions affichées dans la JList ou dans le JTable, en fait, le X, les coordonnées du graffeur ne font pas partie, font pas partie du modèle. Okay. Du coup, c'est un peu savoir ces données-là, est-ce qu'on les met dans la vue ou est-ce qu'on les met dans le modèle. Vous voyez, hein, c'est pas si clair que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le contrôleur, lui, il prend en entrée les opérations de l'utilisateur et il modifie le modèle et éventuellement la vue pour faire du feedback de l'interaction. Donc, typiquement, ça, c'était, vous vous souvenez, hop, je fais un drag et du coup, j'ai besoin d'une boîte rectangulaire qui soit affichée sur la vue. C'est pour ça qu'on a ce trait-là. Okay. Et en Java Swing, ce qui est sûr, c'est que ces deux machins-là, en fait, sont la plupart du temps réunis ensemble. Donc nous, on a notre machine à état, on l'a sorti dans un objet qu'on a appelé interaction, et on a fait de la composition. Et en fait, la plupart des widgets Java, en fait, le code qui gère les événements est avec la vue. Et c'est pour ça que vous retrouvez avec des patterns souvent dans des tutos Java. Vous avez, quand vous faites votre classe, je sais pas quoi, qui hérite d'un composant graphique, souvent les gens mettent avec. Donc vous avez extends, je sais pas quoi, un gpanel, et puis implements. Machin listener. Donc il est à la fois source et donc en fait le gpanel c'est la vue, implements machin listener c'est le contrôleur, et souvent dans le constructeur on se retrouve avec des this.add machin listener de this. Il s'abonne à lui-même, d'accord, parce que la source d'événement c'est la vue, ok. Qui consomme les événements, c'est le contrôleur. Donc, nous, on a bien séparé ces deux classes-là. Et en fait, il y a beaucoup de tutos Java où vous vous retrouvez avec des machins qui sont et vus, j'aurais peut-être dû mettre d'autres couleurs, et contrôleurs, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir les événements. Et donc, le add listener, là, c'est la partie vue. Et this, là, c'est la partie. Le this, là, c'est la partie vue. Et la partie mouse listener, c'est la partie contrôleur. OK pour ça. Bon, ouais, je ne pense pas avoir déjà posé de questions, mais ça me donne des idées. est-ce que c'est plus propre comme ça ou de faire moi, en cours, là, je vous ai montré. Alors, du coup, il n'y a pas forcément besoin du statique, là, mais effectivement, une version, nous, en TP, là, je vous ai fait faire deux classes séparées. Et il me semble qu'en cours, je vous ai montré que la classe interaction, on peut la rentrer dans la classe graffeur en utilisant une classe interne. Là, l'exemple que tu montres dans le chat, c'est que, du coup faire une classe à l'intérieur d'une autre classe. Donc, il y a une solution un petit peu intermédiaire où ça acte le fait que effectivement, de toute façon, notre contrôleur, il doit connaître tellement de choses sur la vue à laquelle il est accroché que les séparer complètement. C'est assez illusoire. D'ailleurs, si vous regardez dans Smalltalk qui prônait cette séparation en trois, en fait, il y a des modèles qui sont réutilisés d'un widget à l'autre, par exemple, mais les vues et les contrôleurs, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple dans Smalltalk de vues et de contrôleurs qui puissent, de vues qui puissent s'adapter à plusieurs à différents contrôleurs ou de contrôleurs qui puissent être utilisés pour différentes vues. Donc, on a toujours des paires qui sont faits l'un pour l'autre. Donc quitte à avoir des paires qui sont faites l'une pour l'autre, L'intérêt de l'exemple que vous montrez dans le chat où on a une classe interne, c'est que du coup, on peut avoir dans notre vue des méthodes qui sont qu'on n'a pas besoin d'exposer au reste du monde, qui peuvent être même privées, parce que la classe interne, si on met le contrôleur en classe interne, il va avoir accès à ces méthodes-là. D'accord ? Donc, on peut avoir des méthodes qui sont réservées à notre classe interne. Okay. C'est un choix. Hein. Encore une fois, les trois sont possibles. On réunit tout ensemble. On a un seul fichier avec une classe interne. On a deux fichiers avec des classes bien séparées. Suivant la taille du projet, suivant la culture des gens, suivant d'où on vient, ces trois choses-là sont possibles. Hein, si c'est bien documenté, si c'est bien... Moi, j'ai pas de religion là-dessus, je dirais. Je vous montre ça pour que vous compreniez bien qu'il y a quand même deux fonctions, il y a la sortie et il y a l'entrée, et que le couplage entre les deux, faut bien comprendre à quel niveau il se fait, quoi. Et que plus le contrôleur ne va pas modifier directement la vue, mais va modifier le modèle, c'est l'intérêt d'avoir ce modèle-là, plus ce sera facile d'avoir des vues multiples. C'est-à-dire que si vous voulez avoir deux représentations différentes graphiquement de deux objets et que ces deux représentations-là soient synchronisées, et ben, en tout cas, c'est bien d'avoir un seul modèle quelque part, les vues qui sont branchées dessus, les contrôleurs qui sont branchés dessus, et quand on modifie d'un côté, le modèle va prévenir les vues, et donc les vues vont s'afficher, vont se mettre à jour de manière synchronisée. Ça, vous vous épargnerez plein de problèmes de synchronisation si vous avez deux représentations différentes d'un même jeu de données. Avoir le modèle bien séparé, en tout cas, ça c'est le truc le plus important dans ce modèle MVC. Ok. Voilà. Alors après, dans le.
Et du coup, je comprends pas trop si on fait une classe interne, du coup, on perd quand même en modularité. Enfin, si on a dit qu'on découplait le noyau fonctionnel de la vue, mais du coup, si c'est une classe interne, du coup, ça découple moins clairement, quoi.
Non ? Alors, pas le noyau fonctionnel, hein, le contrôleur. On parle du contrôleur
pour une classe interne, la machine à état. Trois classes internes. Enfin, je pensais qu'il y avait
le modèle, il n'est pas question de rentrer dans la vue. Hein. Non,
tout d'accord. Là. Ok.
Voilà. Je ne sais pas dans le temps qui nous reste. C'est un peu court pour se lancer dans une machine à état, parce qu'en 10 minutes, on peut commencer une machine à état, mais on n'y arrivera pas.
Donc, du coup, j'avais une ou deux questions aussi, si on a le temps. Ouais, pour souvent, en dernière partie, vous mettez comment décrire le management des layouts.
Ouais.
Je me demandais si, par exemple, on avait le droit d'utiliser le stack layout que vous avez donné dans le downloader, s'il est adapté.
Ouais, pourquoi pas.
Et
ouais.
Aussi, je sais, quel élément correspond aux listes défilantes, parce que je ne sais pas ce que c'est, on n'a jamais vu en TP, et des fois, il y a des... je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les listes où on clique dessus et ça nous met un...
Ah oui.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un peu compliqué.
Je vais essayer de voir si j'en ai. Là, je vais préparer des petits exemples de.
Ça suffit là, je crois qu'il y en
a. Non, il
n'y
en a pas. Mais typiquement, le hop, avec une petite flèche sur le bord.
Oui, c'est ça en général.
Et quand on clique sur la flèche, ça ouvre.
Ouais.
Il y a les autres choix.
Ça, c'est quoi, c'est combo un box. D'accord.
Le terme général, c'est combo box. Et en swing, il s'appelle J Combo Box, je crois.
Ok, d'accord. Parfait. Merci.
Après, vous inquiétez pas trop dans cette partie-là, qui est assez classique. Hein, donc, ça vaut le coup d'en faire quelques-uns. Mais on en a fait la semaine dernière. Mm-hmm. Si vous n'avez pas le nom exact du widget,
Oui.
fiche quoi, c'est
Si
pas
on met genre des rouleurs ou un truc comme ça.
voilà, exactement, j'ai
Ok.
pas de souci avec ça, hein.
Parfait.
Je vous demande pas d'apprendre les classes, la hiérarchie de classes de Java, c'est pas du tout le but. Le but, c'est que vous ayez des connaissances qui puissent se transposer d'une toolkit à une autre, etc. Donc, de toute façon, ces classes-là, elles n'ont pas le même nom partout. Voilà, donc, juste faire la différence du texte qui est éditable, du texte qui n'est pas éditable, une liste, un arbre, des boutons cliquables, des boutons inverseurs,
Et du coup,
différents.
on vous met le plus d'informations possible dans le sens où, par exemple, si on a un ng-scrollbar où on voit que. Non, pas un, enfin, un ng-scrollpanel et on voit que la barre elle s'active ou non en fonction de si on a besoin, on vous précise que c'est when needed ou des choses comme ça ou vous en fichez ça?
Non, 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 juste je vous demande typiquement la question que je vous pose, c'est alors des fois je vous donne des indices dans le texte, lisez bien le texte, sachant que la largeur de gauche peut être modifiée par l'utilisateur. Ça, c'est typiquement le truc qui vous dit si c'est un split pane ou si c'est un border pane ou des choses comme ça, hein, un border layout, etc. Et je vous demande de donner l'arbre des widgets. Et alors, dans le cas de JavaFX, je ne le demande pas parce que en JavaFX, il n'y a pas de layout, c'est les widgets qui font leur layout. Mais pour Swing, je vous demande les layouts quand c'est pertinent, donc quand vous avez un JPanel ou un JFrame. Et je vous demande les widgets, et c'est tout. Je ne vous demande pas de les preferred size, est-ce qu'il est aligné à quoi. Toutes les petites options qui permettent de régler finement le rendu, je ne vous le
Donc
demande pas.
on précise pas
Donc,
trop, d'accord.
c'est les arbres, comme tous les exemples qu'on a traités, je vous dessine un arbre. Donc, c'est la hiérarchie. Et en plus des composants, sur les conteneurs, le layout quand c'est pertinent. Donc, quand vous avez des JPanel, vous mettez le layout. Et du coup, sur les branches de l'arbre,
On précise les directions, les trucs comme ça. Par exemple, pour un
voilà,
border, on précise ça aussi, etc.
exactement.
Ok. Ok, donc comme la semaine, je crois que c'était la semaine dernière où
Ouais, tout à
enfin, qu'on
fait,
avait fait
tout à
ça.
fait, tout à fait.
Ok. Bon, voilà, c'était tout.
D'autres questions, du coup? Ok, bah écoutez, je passerai le jour de l'examen. Pour être là pour répondre aux questions s'il y a besoin, et puis pour vous voir, ce ne sera pas des circonstances hyper hyper sympas, mais encore une fois, les examens, moi je vous prends pas par surprise, hein, d'une année sur l'autre, c'est très régulier ce que je demande, donc il n'y a pas à paniquer, il n'y a pas voilà. Et puis, mon but, c'est voilà, que vous ayez un petit peu des idées précises sur ces choses un petit peu techniques. Du coup, j'espère que cette année, vous avez appris des choses. J'espère que le passage à la distance est un petit peu compliqué, mais j'espère que le cours vous a convenu. J'essaye de tous les ans de quoi, je prends en compte les remarques qu'on me fait, donc n'hésitez pas si vous avez des remarques sur le cours, vous pouvez m'envoyer des messages, je prends pas mal, y compris des critiques, hein, tant qu'elles sont pas méchantes, je cherche à améliorer mon cours de manière générale. Donc il y a moyen, soit vous m'envoyez un mail, soit vous avez des moyens de faire des retours de manière anonyme via les enquêtes. Répondez à ces enquêtes sur les enseignements. Les gens les lisent, les enseignants les lisent et c'est dans quoi. En tout cas, moi j'essaie d'en tenir compte. Donc
Bah,
voilà.
en tout cas, bon, enfin, je m'en fiche de que ce soit anonyme ou pas, si vous voulez, je vous le dis maintenant. Moi, je trouve que le cours était, enfin, moi, le cours m'a plu, il était très bien, j'ai trouvé, sans léchage de bottes plus que ça. Mais par contre, je trouve qu'il est dommage, c'est que. Bah après, je comprends que c'est vraiment long de les corriger, mais ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait vraiment pas eu de retour sur les TP du tout
Au
avant
fur et à
l'examen, quoi.
mesure.
Ça, c'est un peu dommage. Après, c'est long, quoi, donc je comprends que c'est
On est en
compliqué,
train
mais.
de finir le TP, de corriger tout le TP graffeur avec Thibaut. Il en reste encore quelques-uns. Donc, ouais, je suis désolé.
Bah ça c'est un peu dommage, mais bon, je comprends que c'est compliqué de faire mieux parce que c'est long comme projet, mais on va dire qu'heureusement qu'on avait à un moment vous avez fait un cours pour donner votre version de Graphar, parce que sinon on savait pas trop si ce qu'on avait fait c'était bien, etc.
Ouais,
Donc
bah
ça
c'est pour ça, c'est un truc que j'ai fait de nouveau de cette année, effectivement, de faire un espèce de, pas de corriger, mais de faire de la lecture de code en cours, même si ça peut paraître un peu bizarre. C'était nouveau de cette année, c'était un petit peu pour répondre à. Alors, ouais,
Bah
pas
ça
forcément.
c'était bien, je trouvais. Parce que
Ok.
sinon, on n'avait aucun moyen de se placer pour savoir si ce qu'on avait fait au final c'était bien ou pas. Donc au final,
Ok.
là, c'était pas mal. Au moins, on avait une comparaison avec une solution qui était bonne, quoi.
Ok.
Mais voilà. Sinon, oui, le
Bon.
cours était. Moi, je trouvais très bien.
Ok,
Dommage
bah
qu'il soit
merci.
entre midi et deux, parce que c'est un peu. C'est
Ouais,
pas le
mais ça,
plus agréable, mais.
c'était particulier à cette année où l'emploi du temps a été fait pour mettre tous les cours en les mêmes demi-journées. Et je pense que c'est une erreur. Les autres années, on était le vendredi après-midi. Et ce qui m'a permis d'organiser d'ailleurs en début de semestre, je faisais que du cours. Après, je faisais moitié cours, moitié TP. Et en fin de semestre, on faisait que du TP. Et ça permettait d'avancer, d'avoir des notions de cours et de commencer les TP en ayant déjà les notions de cours, ce qui n'était pas le cas de cette année, mais bon, cette année,
Après le Covid a tout chamboulé.
bon, je suis pas sûr que c'était une bonne idée quand même.
Ouais, bah après, sanitairement parlant, ils ont fait au mieux, on va dire. Enfin, ils ont fait comme ils ont pu, quoi.
voilà, on a fait comme on a pu, exactement.
Bon, non, mais sinon,
Ok.
j'ai pas d'autre retour, personnellement.
Ok, bah merci en tout cas. Eh ben, moi, je vous souhaite bonne continuation à toutes et à tous. Bon courage. Et puis bah, à vendredi, je passerai vous faire coucou. Bon, merci pour les petits retours dans le chat. Bon, les gens qui me disent que c'était bien, c'est gentil, hein, ça me fait toujours plaisir. Je prends, encore une fois, je prends aussi les choses négatives volontiers, quoi. Hein? Allez, au revoir tout le monde.